Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, il est 6h57, on est ravis de vous accueillir sur RMC Story, à la télé, avec toute l'équipe d'Apolline Matin, avec Victor Pourchet, salut Victor.
Salut Sébastien.
Avec Charlène Villemer pour la météo, bonjour Charlène.
Bonjour Sébastien.
Qui va nous dire dans un instant que la chaleur, ça y est, revient, la canicule, et qui inquiète évidemment sur le front des incendies. On va surveiller tout ça de très près avec toutes nos équipes, bien sûr, encore une fois ce matin, sur place, ce feu qui est fixé dans les Landes, qui est stabilisé en Gironde. Ça veut dire que les choses vont un peu mieux, mais ça ne veut pas dire que c'est gagné. Il y a encore des reprises de feu. Et évidemment, avec cette canicule qui arrive, les pompiers sont encore sur le pont et au front. On s'arrêtera ce matin sur les conséquences économiques de ces incendies. Ce sont des milliers d'entreprises qui sont impactées. Il y a celles qui ont brûlé, évidemment, et puis il y a celles qui sont empêchées de travailler parce que dans les zones évacuées, il y a le tourisme à l'arrêt, le BTP et tous les autres secteurs. Le gouvernement a déjà annoncé des mesures de chômage partiel. Est-ce que les assureurs vont jouer le jeu? Je poserai la question tout à l'heure au ministre de l'Industrie, Sébastien Martin, qui sera notre invité à 7h40. Et on attend vos témoignages au 32-16. Si vous êtes entrepreneur, salarié, évacué, empêché d'aller travailler, professionnel du tourisme, hôtelier, restaurateur, comment est-ce que vous gérez ces incertitudes? On vous attend 32-16. Vos messages sur le 0612 424 424 sur WhatsApp. Et puis à 8h40, c'est l'écologiste Marine Tondelier qui sera avec nous. Elle estime que le gouvernement a une lourde responsabilité dans tout ça. Elle parle de pyromane politique. Qu'en pensez-vous? Vous réagissez au 32-16. Et puis l'autre grand sujet du jour, évidemment, c'est Zidane qui va devenir le sélectionneur des Bleus aujourd'hui. On en parlera avec Eric Dimeco juste après le journal de 7h. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est l'homme de la situation? Zinedine Zidane, sélectionneur des Bleus, 32-16. Et le WhatsApp RMC vous est ouvert. Bienvenue à tous et bon réveil, vous êtes sur RMC, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Clara Gabillet, bonjour Clara.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Une situation très imprévisible en Gironde. Le feu pourrait s'aggraver encore aujourd'hui à cause des fortes chaleurs. Emmanuel Macron, en déplacement hier, appelle à l'unité autour des pompiers. Des mesures d'urgence pour aider les sinistrés. Le délai est prolongé pour déclarer un sinistre auprès des assurances. Les évacués seront remboursés de leurs frais de relogement. Et puis bientôt la révélation d'un secret de polichinelle. Zinedine Zidane sera officiellement annoncé comme nouveau sélectionneur des Bleus ce matin. Reportage dans son quartier d'enfance à Marseille en fin de journal.
Toujours de l'inquiétude en Gironde où les semaines à venir seront très dures, prévient Emmanuel Macron.
On doit tenir, a dit le chef de l'État en déplacement hier auprès des pompiers du département. Ils sont près de 2800, toujours mobilisés pour venir à bout de ce méga-feu qui a parcouru 42 000 hectares en moins d'une semaine. Thomas Becker, service politique d'RMC, le président les a remerciés et a appelé à l'unité.
Oui, après avoir écouté carte sous les yeux le point de situation des pompiers en salle de crise, le chef de l'État adresse un message de mobilisation et de solidarité.
Il faut qu'on soit unis et en action. Il y a des femmes et des hommes qui risquent tout pour protéger, qui se battent contre le feu. Tout ce qu'on doit faire, c'est les aider. Il y a une chaîne humaine qui s'est faite. On est tous groupés, on y va, on se bat pour gagner la bataille du feu.
Sur le terrain politique, le président répond aux accusations en impréparation, y compris de certains élus locaux.
En 2017, on n'avait pas commandé de Dash depuis 10 ans, on n'avait pas commandé de Canadair depuis 15 ans et d'ailleurs on n'en produisait plus. Je me félicite de ne pas avoir attendu ces feux et d'avoir dès 2017-2018 pris les premières décisions.
Il assure avoir doublé les crédits de la sécurité civile en 10 ans. Un chef de l'État en défense de son bilan, pour lui, un maximum de moyens est aujourd'hui déployé.
Au moment où je vous parle, on a 67 aéronefs qui sont mobilisés en France. C'est un record historique.
Emmanuel Macron qui a répété hier soir la solidarité de la nation pour les personnes évacuées. Il a également demandé au gouvernement d'accompagner les acteurs économiques pour les indemniser en concertation avec les assureurs.
Emmanuel Macron qui a aussi précisé hier qu'il y avait des reprises de feu, des reprises contenues. Rachel Sadodine en direct avec nous pour les toutes dernières précisions. Rachel, la mobilisation des autorités va rester très forte aujourd'hui. C'est ce qu'a dit la préfecture de Gironde, car la situation est toujours très imprévisible.
Oui Clara, l'incendie n'est pas fixé. C'est important de le souligner, même s'il y a quand même du progrès. Malgré de nombreuses reprises, Emmanuel Macron l'a annoncé hier soir, le feu est contenu. Autrement dit, il n'a pas gagné de terrain. Le bilan reste le même. 42 000 hectares de surface brûlée. Évolution positive de la situation, mais les pompiers restent sur leur garde car les températures vont remonter aujourd'hui. Nouvelle vague de chaleur attendue avec jusqu'à 40 degrés cet après-midi en Gironde. Les habitants évacués ont donc toujours interdiction de rentrer chez eux. Les manifestations culturelles, sportives restent interdites dans tout le département. Et puis, il n'y a toujours pas de train qui circule au sud de Bordeaux, sauf en direction de Toulouse et d'Agen.
Et dans les autres départements, Rachel, les nouvelles sont un peu plus encourageantes.
Oui, car il y a dans les Landes, le feu, il a été fixé là-bas avec ce triste bilan, entre 110 et 120 bâtiments détruits. Dans le Var, des reprises ont pu être circonscrites hier soir. L'incendie est toujours actif, hein, on le note, mais des milliers de soldats du feu s'affairent toujours à essayer de le maîtriser, de le contrôler. Les pompiers qui sont endeuillés ce matin dans les Bouches-du-Rhône, un volontaire est mort dans un accident de la route alors qu'il participait au dispositif préventif dans le cadre du risque feu de forêt.
Rachel Sadodine, vous le disiez, Rachel, un nouveau mort parmi les pompiers, le caporal Laurent Manson, 38 ans. Il partait mettre du carburant dans son camion-citerne lorsqu'il a fait une sortie de route. Les circonstances exactes restent à déterminer. Écoutez la réaction de Bruno Ménard. Il est secrétaire général du syndicat des sapeurs-pompiers volontaires de France.
Encore un, malheureusement. Quand sera le prochain ? On est vraiment anéanti. De plus en plus de fatigue s'accumule au fur et à mesure du temps, de la fatigue mentale, de la fatigue physique. Une chose qui est sûre, c'est que les organismes sont fatigués. Imaginez aujourd'hui, on est fin juillet, les organismes des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires sont dans un état comme si on était fin août, début septembre. Je pense qu'on n'a pas encore tout vu et que le plus dur va arriver. Le mois d'août va être catastrophique, c'est une certitude.
Et un autre accident de camion-citerne hier, cette fois dans le Var. Il s'est renversé. 4 pompiers sont légèrement blessés.
Et on retourne en Gironde juste après le journal avec un témoignage terrible, celui de l'un de ses habitants qui ont tout perdu, qui ont retrouvé leur maison entièrement détruite. On sera au Porges, cette commune martyre dont le maire nous disait hier que 183 maisons ont été détruites. Ce sera juste après le journal. Et dans ce contexte, les assureurs sont appelés à prendre des mesures exceptionnelles.
Après l'activité l'activation du chômage partiel pour les 13 000 entreprises évacuées. Le gouvernement a aussi indiqué que les particuliers seront accompagnés. Sonia Gobry, plusieurs annonces faites hier du côté des assurances.
Oui, le délai pour transmettre les déclarations de sinistrés est prolongé jusqu'au 31 août. Ça laisse un peu plus d'un mois au lieu de 5 jours habituellement. Ensuite, les assureurs prendront en charge pendant 3 semaines les frais de relogement des personnes évacuées en Gironde, dans les Landes et dans le Var, que les logements aient été endommagés ou non. Une mesure exceptionnelle, souligne Olivier Moustakakis, cofondateur d'Assurland.
Ça, c'est une vraie mesure, en effet, et un vrai geste de la part des assureurs. Même sans dommage, d'accord, l'assurance va prendre en charge, en effet, fait les frais de relogement alors sur une période de 3 semaines. Au-delà de ces mesures, le vrai montant d'indemnisation va constituer sur les habitations qui ont été détruites ou endommagées.
À titre de comparaison, pour les violents incendies en Gironde en 2022, près de 2000 sinistres ont été indemnisés pour environ 80 millions d'euros.
Le montant sera plus important qu'en 2022 sur l'ensemble des sinistres parce qu'il y a des entreprises aussi qui ont été touchées. Il y a probablement aussi des agriculteurs dont les récoltes ont été impactées.
Conséquence, il y aura selon lui une nouvelle hausse du prix des assurances alors que les tarifs ont déjà augmenté de 13% en moyenne cette année.
Précision de Sonia Gobry. Le prix des timbres et des colis va augmenter au 1er janvier prochain, plus 6,73% en moyenne, annonce La Poste, à cause notamment de la baisse du nombre de lettres envoyées. Pour une lettre verte, ce serait une augmentation de 10%. Ça représente environ 15 centimes de plus par timbre.
L'actualité économique à 7h07 sur RMC, c'est aussi ce dernier sursis pour les salariés de Fibre Excellence, le numéro 1 français de la pâte à papier.
Un sursis pour les salariés de l'usine de Saint-Gaudens, près de Toulouse. L'offre d'un industriel du bâtiment doit être examinée d'ici à demain. Celle de l'homme d'affaires Mathieu Pigas a été rejetée hier par le tribunal de commerce de Toulouse, ce qui condamne a priori le site de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône à la liquidation. Antonin Audion, les salariés que vous avez contactés peinent à garder espoir.
La perspective de la fermeture est difficile à accepter pour Jean-Michel Bullinge, salarié de l'usine de Tarascon.
Beaucoup d'amertume.
Avec le rejet de l'unique offre pour ce site dans les Bouches-du-Rhône, le procureur a requis la liquidation judiciaire.
Pour nous, ça veut dire certainement que les 270 salariés qui travaillent avec moi ici seront licenciés.
Un ultime espoir persiste dans l'autre usine de Saint-Gaudens en Haute-Garonne. Un industriel qui tient à rester discret, à montrer son intérêt, Cédric Biet est salarié de l'usine.
C'est pas fini, il y a toujours une lueur d'espoir et l'envie de s'en sortir est toujours là.
Il va donc maintenir la pression en occupant l'entrée de l'usine à l'arrêt, comme il le fait depuis une semaine avec une quarantaine de ses collègues.
On reste en place, sur le piqué de grève. Tant que l'usine ne redémarre pas, je crois qu'on va rester là.
Une situation qui aurait pu être évitée si l'État s'était plus investi, selon Cédric Cobert, secrétaire général de la CGT en Haute-Garonne.
Parce que depuis 6 mois, le gouvernement n'a rien fait. Il est resté les bras croisés, il n'a pas cherché de financeurs, il n'a pas cherché de repreneurs. Donc on se dit que si le gouvernement avait un tant soit peu joué la partition qui devrait être la sienne, eh bien on ne serait pas dans cette situation-là aujourd'hui.
Le tribunal décidera demain s'il laisse ou non un mois supplémentaire à cet industriel pour proposer une offre de rachat.
Alors y a-t-il encore un peu d'espoir? Peut-on sauver certains de ces emplois et notamment le site de Saint-Gaudens? Je poserai la question tout à l'heure à 7h40 au ministre de l'Industrie Sébastien Martin qui sera sur ce plateau.
En football, l'équipe de France s'apprête à retrouver une de ses légendes aujourd'hui. Mais sur le banc, Zinedine Zidane doit officiellement être annoncé pour succéder à Didier Deschamps comme sélectionneur des Bleus. Après des années de rumeurs, conférence de presse ce matin, 11h au siège de la Fédération. De quoi rendre fiers les habitants de la Castellane, cité de Marseille, où Zizou a vécu jusqu'à ses 15 ans, Antoine Brard.
Oui, le voir diriger les Bleus, ça rend fou de joie le quartier.
C'est vraiment une fierté, c'est une fierté de la Castellane, c'est une fierté nationale, c'est une fierté de la ville.
Fierté, mais aussi source d'inspiration pour les habitants d'une cité qui n'a pas toujours une bonne image.
Ouais, ça donne de l'espoir pour les jeunes, pour nous-mêmes, de se dire que on vient de la Castellane et on peut réussir, on peut devenir quelqu'un de grand.
Et cette admiration pour Zizou est réciproque. Pour preuve, ce message adressé aux jeunes du club de foot de la Castellane avant leur finale, il y a 2 mois.
Le plus important, c'est de prendre du plaisir. Régalez-vous et allez à la Castellane, vous êtes les meilleurs.
Ada, l'entraîneur de cette équipe, l'affirme. Zidane, c'est une vitrine pour le quartier.
Grâce à sa vidéo qu'il a faite, il a eu beaucoup de licenciés qui ont voulu venir au club. C'est la première fois que j'arrive à faire une détection avec 22 joueurs qui ne viennent pas du club.
La cité de la Castellane attend maintenant de voir le premier match de la France, dirigée par son idole, le 25 septembre, face à la Turquie.
Et à l'occasion de cette annonce, RMC bouscule ses programmes. Vous ne raterez rien avec une émission spéciale à partir de 11h. Et ce soir, de 20h à 23h, l'afterfoot entièrement consacré à Zinedine Zidane.
Et puis on vous attend au 32-16. Est-ce que Zinedine Zidane est l'homme de la situation? Vous nous le dites ce matin. On verra ce qu'en pense Eric Dimeco qui sera avec nous dans quelques minutes sur RMC. C'était le journal de Clara Gabier. Il est 7h10 et on va retourner donc en Gironde ce matin dans l'une des communes martyrs de l'incendie. C'est la commune du Porge. Le maire qui était avec nous hier nous donnait ce chiffre de 183 maisons entièrement détruites. C'est plus de 20% de la commune. Et parmi ces maisons calcinées, il y a la vôtre. Yves, bonjour. Yves Brugy-Regarde.
Oui.
Bonjour à vous. Merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous avez pu retourner sur place. Racontez-nous ce que vous avez découvert et ce qu'il reste de votre maison.
Bonjour Sébastien, c'est l'apocalypse, c'est inimaginable, c'est un véritable, c'est des visions d'horreur. On comprend pas comment un pays qui se veut être une puissance mondiale puisse faillir à ce point-là et permettre que 183 maisons disparaissent comme ça, que des familles soient brisées.
Ça veut dire que là, il reste. On voit, on a vu un certain nombre d'images et on les voit là pour ceux qui sont avec nous sur RMC Story de paysages quasiment de bombardement où il reste quasiment plus rien. C'est le cas de votre maison. Il y a encore des murs ou il reste vraiment plus rien?
Non, il reste vraiment plus rien. Il y a quelques murs qui sont debout, mais il reste rien. Tout s'est effondré. À l'intérieur de la maison, on ne reconnaît même pas les meubles. Je suis rentré dedans comme les cloisons ont disparu. À un moment, j'étais perdu dans ma maison. Je ne savais pas dans quelle pièce j'étais. C'est terrifiant.
Quand vous êtes parti, vous avez tout laissé sur place. Vous êtes parti dans l'urgence?
Ah oui, on est parti dans l'urgence, les gendarmes sont venus nous chercher. Enfin, nous, on a eu de la chance parce que certaines personnes n'ont pas été averties, nous, on a été avertis. On est parti vite, mais en pensant que c'était juste une mesure de précaution. Et quand je suis revenu, c'est la désolation totale, quoi.
Il y a évidemment
je ne sais pas comment on pourra revivre à cet endroit-là, quoi.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Je ne sais pas quelle est la suite pour vous. Est-ce que vous imaginez reconstruire une maison au même endroit?
Eh ben le problème, il y a l'aspect psychologique. Ça va être compliqué parce que moi, ça fait que 15 ans que j'habite au Porge. Il y a des gens, c'est toute leur vie, c'est des maisons de famille depuis plusieurs générations. Pour eux, ça va être encore plus terrible. Et puis comment reconstruire comme ça, comment arriver à se projeter. Pour le moment, c'est très très difficile. Et puis, on va être confronté aux assurances, à l'ignominie des assurances qui va nous parler de coefficient de vétusté et tout. Mais une vie, c'est pas un coefficient de vétusté.
Bien sûr, et on entend on entend votre émotion, Yves, parce qu'évidemment il y a le matériel, il y a toutes ces démarches qu'il va falloir entreprendre, et puis il y a l'affectif, il y a tout ce que vous aviez de souvenirs, bien sûr, dans cette maison. Est-ce que vous vous sentez suffisamment accompagné aujourd'hui?
Ah ben pour le moment c'est très très compliqué parce que bon, moi je suis revenu au village, mais j'ai bravé les interdictions parce que je voulais voir ma maison, mais il y a plein de gens qui n'ont toujours pas vu leur maison. Ils les ont vus sur les images, mais ils ont pas vu la désolation. Donc accompagné pour le moment par personne, quoi. Alors il y a un collectif qui est en train de se monter au port pour justement avoir des réponses à ces événements et puis pour essayer d'avoir une action commune, quoi.
Une action pour faire quoi?
Eh ben déjà pour demander des comptes. Il va falloir demander des comptes à l'État. Comment ça a pu avoir lieu? La chaîne de décision, parce qu'on a entendu quelques décisions qui nous semblent un peu aberrantes. Justement, on compte un peu sur vous pour aller interroger toutes ces décisions. Puisqu'il y a une décision très en amont, semble-t-il, qui ferait que les pompiers au sol ne sont pas intervenus parce qu'il fallait attendre les moyens aériens et que les moyens aériens ont mis 2 heures à venir. Si jamais c'est vrai, c'est dramatique parce que c'est 2 heures perdues. C'est peut-être les 2 heures qui auraient fait qu'il n'y aurait pas eu cette abomination.
Le maire le disait hier, effectivement, que les moyens avaient mis un tout petit peu de temps à arriver, que le village s'était retrouvé encerclé par les flammes.
Ah oui, oui. Et puis alors, l'avenue où moi j'habite, qui est une avenue qui a été particulièrement touchée, mais c'est pas le seul quartier du village qui a été touché, on comprend pas. Il y a des maisons qui sont au bord de la route et qui sont même pas entourées de bois et qui ont brûlé. On se dit que mais si elles avaient été défendues, elles auraient jamais brûlé.
Moi, il y a de la colère aujourd'hui parmi les habitants. Ah, oui. Il y a évidemment l'immense tristesse que vous avez, mais il y a aussi de la colère.
Ah oui, si vous allez dans le village, si vous reportez avant dans le village, vous verrez que la parole elle commence à gronder un peu. Il y a beaucoup de colère. On veut des réponses.
On veut des réponses.
Et on veut qu'on nous aide. Et puis on veut qu'on revoie plein de choses. Il y a eu les incendies de l'Andiras. Est-ce qu'on en a tenu compte? Est-ce qu'il y a eu des pare-feux?
On entend que vous voulez des réponses
de la forêt, quoi.
Vous attendez des réponses et qu'il y a donc ce collectif d'habitants, vous nous le révélez ce matin, ce collectif d'habitants qui se monte du côté du Porche. Merci infiniment pour votre témoignage, Yves Brugier. Regarde, et on prendra régulièrement, bien sûr, des nouvelles sur RMC des habitants sinistrés, parce qu'à la suite, il y a les démarches, il y a, vous le disiez, les galères des assurances qui vont évidemment être compliquées, et puis il y a ces recherches de réponses sur ce qui s'est passé. C'est exactement lorsque le feu a envahi la ville. Une dernière information qui vient de nous parvenir depuis la préfecture de Gironde. Le feu est toujours stabilisé ce matin après une nuit calme. Voilà, donc une situation relativement stable depuis hier. Merci à vous, il est 7h16.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, Zinedine Zidane, est-ce le bon choix pour les Bleus? L'ancien champion du monde qui sera intronisé aujourd'hui, sélectionneur des Bleus pour prendre la suite de Didier Deschamps. Éric Dimeco est avec nous dans un instant. Et puis vous réagissez évidemment au 32-16. A tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h19 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Ça n'est donc plus un secret pour personne. Et depuis un moment déjà, tout à l'heure à 11h, le président de la Fédération Française de Foot, Philippe Diallo, présentera le successeur de Didier Deschamps comme sélectionneur des Bleus. Et ce sera bien sûr Zinedine Zidane. Bonjour Éric Dimeco.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous ce matin. Que pense le consultant RMC Sport que vous êtes de ce choix de Zinedine Zidane? Est-ce que c'est le bon choix?
C'était le bon choix, on le saura plus tard. En tout cas, c'était le choix évident, c'était le choix que tout le monde attendait, et c'était surtout une obligation pratiquement pour le président de la Fédé. Imaginons un seul instant le poste vacant que le président de la Fédé le propose à quelqu'un d'autre qu'à Zinedine Zidane.
Une obligation, il y avait des noms que...
Ah ben,
Ouais. Ben, incontournable.
Ben non, c'était incontournable. C'est un non-événement en réalité, puisque Zinedine avait déclaré son amour à l'équipe de France, son intérêt pour l'entraîner un jour. Voilà, contrairement à ce que j'ai entendu de ça et là, puisque on s'amuse à comparer les entraîneurs qui ont, enfin les grands joueurs qui ont raté leur leur mission d'entraîneur national. On parlait de Platini, de Maradona, de Van Basten, mais Zinedine Zidane, il a été entraîneur de club, du plus grand club du monde, où il a gagné beaucoup
trois
de titres, trois Ligues des Champions de suite. C'est-à-dire, je pense que ce matin, si il avait pris un autre entraîneur que Zidane, on ferait des débats pour savoir si le président de la Fédé est devenu fou, parce que les prétendants au titre sont de bons entraîneurs, mais personne n'a le CV de Zizou, que ce soit en tant que joueur, voire même qu'entraîneur. Alors après, c'est pas un gage de réussite, c'est un poste particulier, c'est un poste exposé, il prendra des coups, Zizou, mais déjà, il avait pas peur de les prendre sur le terrain. Et je pense qu'il a pas peur de les prendre maintenant, mais c'était obligé. Enfin, et tout le monde a hâte de voir ce que ça va donner, quoi. C'est surtout ça, voilà.
Bien sûr, on a tous hâte de voir ce que ça va donner. Vous avez partagé quelques sélections ensemble en équipe de France.
Je l'ai vu arriver.
Et on a tous l'image d'un Zidane assez réservé, finalement pas forcément très bavard. Là, il va être confronté aux médias. Vous le disiez, il va être très exposé, il va prendre des coups. C'est un autre homme aujourd'hui, c'est être confronté à tout ça.
La première question, c'était est-ce que j'imaginais un jour Zidane, en ayant joué avec lui, un entraîneur? Je vais vous répondre non. Il y a d'autres joueurs, un garçon comme Didier Deschamps, avec qui j'ai beaucoup joué aussi, et qu'il faut remercier pour ce qu'il a fait en équipe de France. Et je vais même plus loin, il faut souhaiter à Zizou d'avoir le même palmarès que Didier, parce que Didier a fait quelque chose d'extraordinaire. Au contraire de Didier, je savais qu'un jour il serait entraîneur. Zizou, j'ai été étonné. Par contre, on se rend compte quand on passe au Real, on peut aller de partout derrière. Enfin, le Real, c'est le club le plus exposé du monde, où il y a une polémique par jour. Là, l'équipe de France, malgré tout, et Dieu sait qu'elle est exposée, et Dieu sait que c'est un autre métier que celui d'entraîneur de club, mais il n'aura pas des conférences de presse tous les jours ou tous les deux jours pour expliquer ce qui se passe dans son vestiaire, les mauvais matchs du dimanche. Bien sûr qu'il est armé avec ce qu'il a vécu en tant que joueur et en tant qu'entraîneur pour assumer tout ça.
Quels vont être ses premiers chantiers? Là, il reprend une équipe qui est évidemment très très prometteuse, hein, avec beaucoup de talent à l'intérieur. Quelles vont être ses priorités, ses premiers chantiers?
C'est de prendre ses marques. Enfin, je fais toujours un parallèle avec Didier, parce qu'on va le faire obligatoirement. Didier, quand il arrive en équipe de France, il n'a pas qu'une équipe à composer. Il a aussi une image à redorer de cette équipe de France qui avait beaucoup souffert sur les années précédentes. Là, Zizou, il arrive, il a déjà une Formule 1 dans les mains. Alors, moi, je pars du principe qu'il sait la conduire. Maintenant, il y a peut-être des réglages moteurs à faire. Hein. On fait un petit parallèle F1, mais il a constitué son staff, il va prendre ses marques. Mais moi, je regarde un peu de l'étranger, les gens qui sont fans de foot, qui ont regardé notre équipe de France avec les joueurs qui a pas réussi tout à fait sa Coupe du Monde, hein, puisque on espérait que ça gagne. Qui regarde les joueurs qui composent l'équipe de France et qui voient arriver Zidane. Mais moi, je suis de moitié italien, je m'imagine en Italie, ils sont pas capables de trouver un sélectionneur et des joueurs en ce moment, c'est un grand pays de football. Et Zizou est passé à la Juve, et donc il regarde d'un œil particulier. Donc il voit y arriver l'équipe de France avec les joueurs qu'on a, et il voit y arriver Zidane. Je le répète, c'est pas un gage de réussite. Sauf que n'importe quel entraîneur qui serait arrivé à la place de Zidane, ce n'aurait pas été un gage de réussite non plus. Voilà. Et on a quand même plus de chances de réussir quand on a réussi au Real. Alors on va me dire, il est passé après Ancelotti, il avait des grands joueurs et tout, oui, sauf que il avait récupéré lui aussi la première fois une équipe, ou même la deuxième, une équipe qui était en crise. Voilà, donc arrêtons de chercher les problèmes avant qu'ils arrivent, ne boudons pas notre plaisir, et bien sûr que Zidane sera jugé comme les autres sur les résultats.
Avec des premiers matchs et des premières échéances en septembre. Juste une dernière question, ça, Eric, sur le terrain, est-ce qu'il peut y avoir un style Zidane différent de ce qu'on a connu sous Deschamps?
Alors attention, Zizou, il est passé en Italie à la Juve lui aussi, et quand on voit ce qu'il a fait au Real, et c'était pragmatique, Zizou. Hein. Quand il gagne tous ces titres-là, il a mis le terrain très fort, alors avec des talents extraordinaires, mais ça partait pas dans tous les sens offensivement. Hein. Voilà, il fera en sorte que son équipe soit performante, forte, difficile à battre, et surtout qu'il gagne beaucoup. Moi, je pense qu'il a les outils pour ça. Mais après, est-ce que la mayonnaise va prendre? Ben voilà, rendez-vous au mois de septembre, et encore... J'espère qu'on va pas le juger sur les trois premiers matchs. On sait très bien que ça peut prendre un certain temps. Il a une échéance dans deux ans, le championnat d'Europe. Eh bien, on le jugera sur pièce à ce moment-là.
Eh ben, très bien. Les premiers rendez-vous en septembre contre la Turquie et contre la Belgique. Merci Eric Dimeco d'avoir été en direct avec nous ce matin. Puis on vous attend tous au 32-16. Est-ce que Zidane peut être l'homme de la situation? Vous ne manquerez rien d'ailleurs sur RMC hein, ce matin. 11h, émission spéciale pour suivre en direct la conférence de presse à Clairefontaine et l'intronisation de Zidane. Et puis à ce soir, l'after spécial de 20h à 23h, entièrement consacré à Zinedine Zidane. Il est 7h26 et dans un instant, c'est l'économie avec Manu Le Chypre.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h27, l'économie.
RMC.
Le chiffre du jour.
Le chiffre du jour, Manu Le Chypre. C'est 10%, c'est l'augmentation du prix du timbre-poste prévu en 2027.
Oui, les prix pour l'affranchissement des courriers et des colis augmenteront en moyenne de 6,7% au 1er janvier 2027. C'est ce qu'a annoncé hier le groupe La Poste, après déjà quand même une hausse de 7,4% en 2026. Alors, sachant que tous les affranchissements ne vont pas augmenter dans les mêmes proportions, la plus forte hausse, ce sera donc celle du timbre vert pour les envois du quotidien, quasiment 10%. Il passera de 1,52€ à 1,67€. Le prix d'une lettre recommandée de 20 grammes va augmenter, lui, de 6% à 6,47€. Les clients du service en ligne de timbre à imprimer chez soi, ça s'appelle Mon Timbre en Ligne, eux bénéficieront d'une remise de 4 centimes avec par exemple une lettre verte à 1,63€. Les augmentations seront plus contenues sur les colissimo, hein, 4% pour les colis envoyés vers la France métropolitaine et l'international. En revanche, les colis expédiés entre la métropole et l'outre-mer connaîtront une baisse de 5%.
Alors, ce sont quand même des grosses augmentations. Comment est-ce que La Poste les justifie?
Alors, par le coût de plus en plus élevé du service universel postal. Hein, le service universel postal, c'est celui qui garantit à tous les usagers un accès aux services postaux essentiels à un prix raisonnable, 6 jours sur 7 et sur l'ensemble du territoire. Alors que la chute du nombre de lettres transportées fait diminuer les recettes de La Poste, avec à la clé un déficit global qui coûte chaque année 1 milliard d'euros à l'État. Et d'ailleurs, pour finalement nous consoler un petit peu, La Poste nous dit que si on tient compte de l'évolution des comportements des clients de La Poste, c'est-à-dire que le fait qu'on va envoyer moins de lettres, etc., et peut-être un peu plus de colis, eh bien, le budget des ménages pour les services postaux, malgré ces augmentations, diminuera en 2027. Cette année, c'était 27€. En moyenne par famille et par an, ce serait plutôt 25€. L'année prochaine, ça augmente, mais on envoie moins de lettres. Donc on dépense moins.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Emmanuel Le Chypre pour l'économie, on se retrouve tout à l'heure juste après le journal de 8h.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure d'un nouveau journal avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. RMC est allé à la rencontre des pompiers mobilisés en Gironde. L'incendie, lui, n'est pas fixé mais stabilisé. Et les mauvaises conditions météo du jour inquiètent les secours. Une chaîne de solidarité se met en place pour accompagner les pompiers sur le terrain, des Français qui se mobilisent partout dans le pays pour apporter leur aide. Et un ballon d'or à la tête de l'équipe de France, Zinedine Zidane, officiellement présenté aujourd'hui par la FFF. C'est à vivre dès 11h. Sur RMC.
D'abord donc cet appel à la solidarité lancé par Emmanuel Macron.
Le chef de l'État est allé hier à la rencontre des pompiers en Gironde pour leur apporter son soutien et répéter que les semaines à venir seront dures. Il a donc adressé un message de mobilisation et de solidarité pour gagner cette bataille. L'incendie, lui, n'est toujours pas fixé, mais stabilisé. Les pompiers luttent depuis 6 nuits contre ce feu et notre envoyé spécial Lou Garnier les a suivis sur le terrain hier à Saint-Jean-d'Illac.
s'est emballé incessant de camions, d'avions et d'hélicoptères bombardiers d'eau partout, des troncs calcinés, des cendres à quelques dizaines de mètres, un épais panache de fumée. Les pompiers luttent toujours contre les flammes.
Là, vous avez un hélicoptère qui est en train de marquer la zone pour qu'on ait un avion qui fasse des largages.
Capitaine Wilfried Schneider.
L'objectif pour nous, il est clair, c'est stabiliser la situation pour éviter qu'on ait des foyers aussi actifs les jours prochains.
Après presque une semaine de lutte, tous ont les traits tirés. On ne lâche rien, martèle l'officier.
Il y a beaucoup de fatigue accumulée. Les personnels sont usés. C'est un chantier qu'on n'a jamais connu en France, un chantier qui fait plus de 40 000 hectares.
Contenir le feu pour protéger les habitations et une centrale photovoltaïque toute proche. Sur le terrain, des entreprises privées se mobilisent, elles aussi, pour aménager des pare-feux, explique le commandant Mathieu Jaumin.
Ce sont des bulldozers, ce sont des pelles mécaniques, ce sont des tracteurs qui viennent retirer le maximum de végétation. C'est un rempart à l'orée du bois.
Une zone vierge longue de 2 km qui, couplée à l'action des pompiers, doit permettre de ralentir le feu.
42 000 hectares brûlés en Gironde. Le feu n'a pas gagné de terrain ces dernières 24 heures. Justement, Jean-Wilfried Forquès, vous êtes notre envoyé spécial pour RMC. Vous êtes en direct avec nous ce matin de l'Esch-Cap-Ferré. Vous venez à l'instant d'assister au passage de relais des pompiers. Leur travail s'annonce une nouvelle fois compliqué aujourd'hui.
Oui, ça a été très compliqué toute la nuit, mais ils sont parvenus à combattre les fumerons au sol. Colonel, que s'est-il passé concrètement? Qu'avez-vous fait cette nuit?
Donc cette nuit, on a continué effectivement à traiter les lisières avec les travaux de forêt, les travaux de bulles qui ont continué à faire les lisières, et on a traité effectivement tous les fumerons à l'intérieur du massif nombreux.
Quelle est la tactique du jour?
Donc la tactique du jour, c'est de continuer à travailler lisière parce qu'on a des conditions qui vont fortement se dégrader à partir de cet après-midi et surtout qui vont encore plus se dégrader demain avec une hygrométrie qui va redevenir extrêmement basse et un vent qui va tourner à l'est et au sud-est et qui va encore nous inverser le sens du feu.
Et donc pour les pompiers ici, il s'agit de regarder, scruter la météo qui va donner une canicule très importante, notamment demain avec des températures autour de 42 degrés.
Jean-Wilfried Forquès en direct du PC Pompier de l'Esch-Cap-Ferré pour RMC. Face aux incendies, la solidarité s'organise. Les Français se mobilisent pour soutenir les pompiers matériels, dont ravitaillement. Et certains vont même jusqu'à parcourir des centaines de kilomètres pour prêter main forte. Notre correspondant RMC, Martin Lange, a pu échanger avec plusieurs de ses volontaires.
David est agriculteur en Charente. Après avoir vu les premières images de l'incendie, il n'a pas hésité une seconde.
J'ai dit allez hop, mon chauffeur était motivé, j'ai dit on part. La solidarité agricole a toujours existé, j'ai un tracteur, une citerne, j'ai toujours fait ça.
Depuis samedi soir, il se bat aux côtés des pompiers.
On ravitaille les camions pour des reprises de petits feux, des fumerolles qui traînent par-ci par-là. Quand on n'alimente pas les camions, on est en première ligne, on tape le feu comme on peut.
D'autres collectent des denrées ou des produits d'hygiène. Kevin a fait 600 km depuis le Maine-et-Loire pour les acheminer jusqu'en Gironde vendredi dernier.
On a tout mis en fait sous sac sous vide pour que ça puisse passer dans la voiture, mais vraiment jusqu'au plafond.
600 serviettes et 400 gels douches reçus comme une bénédiction à Montussan, à quelques kilomètres des flammes.
On a été accueillis les bras ouverts, ils étaient vraiment émus par la quantité, surtout qu'il y ait une mobilisation comme ça qui vienne de toute la France.
Autre initiative dans la Creuse, la ville d'Aubusson a décidé d'ouvrir son camping municipal aux vacanciers piégés par les flammes. Stéphane Ducourtiou, le maire.
On est situé à 300 kilomètres, donc un peu loin de tout, et on s'est posé la question, on comprend ce qu'on peut se rendre utile. On peut pas aller éteindre les incendies, bah pourquoi pas leur proposer de faire une halte en Creuse.
Une soixantaine de places sont actuellement disponibles gratuitement. Une solution de repli supplémentaire pour la préfecture de Gironde.
Et les assureurs prennent des mesures d'urgence. Le délai pour transmettre les déclarations de sinistrés est prolongé jusqu'au 31 août. Les personnes évacuées en Gironde, dans le Var, dans les Landes, pourront obtenir le remboursement de leurs frais de relogement pour une période maximale de 3 semaines. Autre annonce, cette fois-ci du gouvernement, l'activation du chômage partiel pour les 13 000 entreprises sommées d'évacuer en Gironde. Toutes les manifestations sportives et culturelles interdites en Gironde, ainsi que les activités nautiques sur le plan d'eau de Cazaux-Sanguinet. Les touristes, eux, sont invités à reporter ou à annuler leurs vacances dans le département. Une consigne de la préfecture qui fait réagir les professionnels du tourisme, notamment Franck Chaumet, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Gironde.
Moi, je comprends tout à fait son annonce. Elle veut garder les routes libérées pour les sapeurs-pompiers, pour la sécurité. Mais elle a oublié peut-être dans sa communication de dire on ne souhaite pas que les gens viennent en Gironde pour l'instant et sur les lieux impactés. Il y a aussi toute la côte atlantique côté médocaine. Il y a aussi le côté du bassin d'Arcachon. Il y a le Libournais. Il y a toute la route des châteaux. tout cela n'ont pas été impactés. Là, aujourd'hui, ils ont annulation sur annulation, donc j'ai bien peur que la saison soit catastrophique.
Et on attend vous aussi vos témoignages si vous êtes entrepreneur, si vous faites partie de ces secteurs impactés, mis à l'arrêt par ces évacuations, par ces incendies, les hôtels, les restos, le BTP, tous les secteurs, toutes les entreprises qui sont dans la zone. On vous attend 32-16, vos messages sur le 06-12-424-424 sur WhatsApp et on en parle juste après le journal avec l'invité d'RMC ce matin, c'est le ministre de l'Industrie Sébastien Martin.
Et un pompier volontaire de 38 ans a perdu la vie alors qu'il participait à un dispositif préventif contre les feux de forêt. Il a fait une sortie de route dans les Bouches-du-Rhône. 4 autres pompiers ont été blessés dans le Var alors qu'ils se rendaient sur l'incendie dans le secteur de Cotignac. Leur véhicule s'est retourné et a fini dans un ravin. Cet incendie n'est toujours pas fixé.
Il est 7h37 sur RMC. C'est le début de l'ère Zidane chez les Bleus aujourd'hui.
Le champion du monde 98 va prendre les rênes de l'équipe de France et succéder à Didier Deschamps. Annonce officielle à 11h pour le plus grand bonheur des supporters, Diane Carlotti.
Quand on est français et qu'on aime le football comme Steve, Zidane, c'est...
C'est comme Michael Jackson. Encore aujourd'hui, on a qui l'écoute, alors qu'il est mort il y a déjà très longtemps. C'est la plus grande légende pour moi, plus que Platini, mais c'est un autre niveau.
Le Marseillais, champion du monde et ballon d'or en 1998, a marqué des générations. Calvin et Mohamed ont moins de 25 ans et ne l'ont donc jamais vu jouer.
C'est l'idole de tout le monde en France. Il n'y a pas une personne qui peut mal parler de Zizou.
Nos parents nous en parlent, nos grands-parents nous en parlent. On nous raconte ce que Zidane a fait. On a pu voir aussi, grâce aux archives, ce qu'il a pu accomplir. Du coup, ça nous a transmis cette admiration envers Zidane.
Pour les anciens, Zizou, c'est le doublé face au Brésil en Coupe du Monde 98 et le coup de tête en finale face à l'Italie en 2006. Mais pour Dorian et les footballeurs d'aujourd'hui...
Je pense au Real, ce qu'il a fait comme entraîneur. Et avec 3 Ligues des Champions d'affilée, je pense que c'est la bonne affaire.
Un avis partagé par le perchiste Renaud Lavillény, autre légende du sport français.
Tout le monde en rêvait et on l'a. Un champion du monde qui remplace un autre champion du monde. Sur le papier, c'est cool quoi. On a tous, je pense, hâte de voir ce que ça va donner.
Reste à savoir si Zinedine Zidane fera mieux que son ex-coéquipier Didier Deschamps à la tête des Bleus.
Et vous ne raterez rien de cette annonce avec une émission spéciale dès 11h sur RMC et ce soir de 20h à 23h, l'after foot entièrement consacré à Zinedine Zidane.
Le quintet, c'est sur l'hippodrome de Compiègne aujourd'hui à 18h30.
Le pronostic de la Dream Team, leur favori le 2, leur outsider et le 3.
C'était le journal de Clément Gouitz sur RMC, il est 7h39.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et je le disais, on va s'arrêter sur les conséquences économiques de ces incendies et de ces évacuations massives. Bonjour Sébastien Martin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en plateau ce matin. Vous êtes le ministre chargé de l'industrie. Il y a tout ce tissu industriel, bien sûr, qui est présent dans cette zone, avec des sites d'ailleurs sensibles. On en parlera. Et puis il y a toutes ces entreprises contraintes de fermer, des salariés qui ne peuvent pas aller travailler, le tourisme qui est à l'arrêt, le BTP. Le gouvernement a déjà annoncé des mesures de chômage partiel. On en parle dans un instant et on attend tous vos témoignages au 32-16. A tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Bienvenue sur RMC, si vous nous rejoignez, il est 7h43, les incendies ont aussi des conséquences économiques, ce sont des milliers d'entreprises qui sont ce matin en danger. Bonjour Sébastien Martin.
Bonjour.
Vous êtes le ministre de l'Industrie, merci d'être avec nous. Vous avez participé hier à une réunion de crise à Bercy avec les acteurs économiques. Bercy qui chiffre à 13 000 le nombre d'entreprises situées dans les zones évacuées en Gironde et qui donc ne peuvent plus avoir d'activité aujourd'hui. Que va faire l'État pour limiter la casse ?
Je permettrais déjà avant d'avoir une pensée parce qu'hier soir un pompier est décédé dans les Bouches-du-Rhône. Et tout ça, quand même, on rappelle qu'on est face à un incendie majeur. Et je pense qu'il est important d'avoir une pensée pour le pompier qui est décédé hier et après 2 autres décès la semaine dernière en Gironde. Face à ce combat, les soldats du feu sont en première ligne et je voulais le dire. Hier, effectivement, autour de Roland Lescure, nous avons réuni d'abord le matin une première réunion avec les entreprises locales et puis ensuite, en début d'après-midi, une réunion avec l'ensemble des fédérations. Vous avez vu que ça a amené le ministre à faire un certain nombre d'annonces, notamment en matière de prise en charge par les assureurs, cette fois-ci des questions de relogement et des questions de conditions dans lesquelles on peut déposer les dossiers de sinistre. Puis l'après-midi, il s'agissait beaucoup d'écouter les préoccupations du monde économique. Le monde économique aujourd'hui, d'abord, est extrêmement calme et mobilisé, je tiens à le préciser, et veut avoir plus d'explications sur comment on a recours au chômage partiel, quel est le numéro, vers qui s'adresser. On est dans des conditions très pratico-pratiques pour le moment. Et d'ailleurs, d'ici cette fin de semaine, on doit se revoir pour essayer de répondre à
certaines questions. Alors, qu'est-ce que vous dites ce matin à ces chefs d'entreprise, peut-être ces artisans qui sont dans cette zone-là, qui ne peuvent pas avoir d'activité? Il y a le tourisme qui est complètement à l'arrêt. Il y a forcément les activités comme le BTP. Qu'est-ce que vous leur dites? Vers qui se tourner si ils ont leur entreprise complètement bloquée parce que les salariés ne peuvent pas venir ou parce que tout simplement la zone est interdite?
En Gironde, la Chambre de commerce a mis en place un numéro unique que les entreprises peuvent contacter pour pouvoir avoir des renseignements. Il y a aussi auprès des URSSAF un numéro unique qui est en ligne, tout est sur le site de la préfecture de Gironde, qui vous permet d'avoir les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Je leur dis que l'État sera à leur côté, que pour le moment nous examinons l'ensemble des demandes qui peuvent remonter sur le terrain, que depuis ce week-end en fait, la préfète a indiqué que les salariés ne pouvaient pas retourner dans les communes dans lesquelles il a été demandé d'évacuer, et que la situation elle est évaluée au jour le jour, bien évidemment en se disant que on souhaite que cela dure le moins longtemps possible, mais la priorité pour que cela dure le moins longtemps, c'est de se fixer sur les conditions pour calmer cet incendie et l'arrêter le plus vite possible.
Donc toutes ces entreprises auront accès au chômage partiel qui
tout
leur
à fait
sera,
ça a été tout à fait annoncé. Le chômage partiel, c'est au niveau du SMIC, en fait, l'État prend en charge 100% du salaire et jusqu'à 60% quand vous montez dans les grilles de rémunération. Et là, c'est un partage entre l'entreprise et l'État.
Est-ce qu'on a une idée du nombre de salariés qui pourraient être concernés par ce chômage partiel et combien ça peut coûter à l'État?
Écoutez, on dit qu'aujourd'hui, il y a 130 000 salariés qui peuvent plus retourner travailler. Auquel il faut qu'on regarde, parce que il y a aussi un certain nombre de, par exemple, de salariés qui sont dans des entreprises qui ne sont pas forcément dans la zone qui est fermée, mais qui ont été délogés, qui sont dans des conditions, en gros, soit ils dorment encore dans un gymnase, ou ont dû partir à plusieurs kilomètres dans de la famille. Est-ce qu'ils peuvent retourner chez eux? Il y a la question aussi que se pose un certain nombre d'entreprises. Est-ce que je peux mettre mes salariés au travail parce qu'on a un niveau de pollution de l'air qui est supérieur à ce qu'il était? Donc, il y a un certain nombre de questions qu'il faut qu'on soulève. Et c'est l'objet de la réunion de jeudi, donc c'est après-demain, jeudi, au cours de laquelle on pourra apporter des réponses encore plus précises aux entreprises.
Est-ce que ça va suffire? L'UDP, qui représente beaucoup d'artisans, demande à pouvoir obtenir des reports de paiement de différentes charges.
On est tout à fait ouvert, bien sûr, on est tout à fait ouvert à des mesures qu'on va appeler de trésorerie d'une manière générale pour permettre des reports de charges, des reports de cotisations. Tout ça, il faut se rapprocher des services, des directions départementales de l'emploi et du travail, les DETS qui sont présentes sur le territoire. Je pense que ce qui est urgent pour le moment, c'est aussi de ne pas engorger dans les premiers jours ces services-là et services de l'État qui sont focalisés sur la coordination de la lutte contre le feu. Mais bien évidemment, nos services en département, les services à Bercy pour les fédérations professionnelles sont à la disposition des organisations professionnelles pour travailler ces questions-là.
Vous avez rencontré les assureurs, vous le disiez hier, est-ce qu'ils vont jouer le jeu?
Écoutez, pour l'instant déjà, ils ont joué le jeu sur les particuliers, puisqu'ils ont annoncé... Sur le relogement et sur les délais pour déclarer les sinistres. Normalement, vous avez 5 jours pour déclarer un sinistre. Là, les assureurs ont indiqué que vous aviez jusqu'au 31 août pour déclarer un sinistre. Si vous êtes, par exemple, une des victimes des 200 et quelques maisons, d'un peu plus de 200 maisons, pardon, qui ont été touchées par l'incendie, vous avez jusqu'au 31 août, et c'est bien légitime, vous n'avez plus rien pour pouvoir faire vos dépôts.
Et pour par les ailleurs, entreprises qui ont des fortes pertes en ce moment, qui ont dû fermer boutique,
Chaque entreprise doit regarder ce qui est prévu dans son contrat, se rapprocher de son assureur. Nous, de la même manière, à Bercy, nous allons travailler avec les assureurs pour voir s'il n'y a pas moyen, quand même, de regarder exactement, au regard de la situation exceptionnelle, quelles sont les conditions exceptionnelles que les assureurs pourraient apporter.
Il faut s'attendre à ce qu'il y ait de la casse parmi ces entreprises, des liquidations en cascade dans les mois qui viennent.
Je ne sais pas. Moi, je ne vais pas... Vous savez, on a une situation qui est déjà suffisamment difficile. On ne va pas rajouter de la catastrophe à la catastrophe. Forcément, bien sûr que c'est le risque. Quand vous avez des entreprises qui, en pleine saison touristique, attendent énormément de l'afflux de touristes, que vous avez les campings qui ont évacué 40 000 personnes, des campings ont été évacués en plein cœur de la saison. C'est pour ça que les mesures de chômage partiel sont importantes, parce que ça vous enlève quand même toutes les charges salariales, mais ça ne vous fait pas rentrer d'argent. Il faudra qu'on regarde les choses calmement, posément, mais pour le moment, on répond à la crise.
Sébastien Martin, je voudrais qu'on dise un mot d'un autre dossier que vous suivez de très près à Bercy, c'est celui de Fibre Excellence, le dernier fabricant de pâte à papier en France, 670 salariés. Hier, le tribunal de commerce a rejeté l'unique offre de reprise qui avait été présentée par Mathieu Pigas, mais dit examiner une offre de dernière minute qui pourrait sauver l'un des deux sites, celui de Saint-Gaudens. Est-ce qu'il y a espoir ce matin? Est-ce que cette offre vous paraît sérieuse, crédible?
D'abord, elle émane d'un industriel, un vrai, qui aura l'occasion, je pense, de s'exprimer. Donc, c'est pas à moi de le faire.
On sait pas qui encore a déposé cette offre.
On sait l'offre.
Vous
elle
savez,
a,
mais
si,
vous n'êtes pas...
si vous voulez, vous, il suffit de vous rendre sur le site du tribunal des affaires économiques. Et je pense que l'identité de ce porteur de projet est un grand industriel français que je tiens à saluer d'ailleurs parce que en France, il a fait énormément d'investissements ces dernières années. Il y a une réunion, j'ai convoqué une réunion à l'issue de cette émission en fin de matinée entre les services du Conseil régional d'Occitanie parce que c'est le Conseil régional d'Occitanie qui a eu les contacts avec cet industriel, les équipes de Bercy, pour voir comment on peut consolider cette offre. Moi, je veux dire que...
Est-ce que l'État peut mettre au pot ?
L'État peut accompagner une offre sérieuse. Je le dis d'ailleurs parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur l'offre de M. Pigas, comme quoi l'État... Enfin, ça fait des mois que l'État a indiqué à tout le monde les conditions d'accompagnement. Sur le prix de l'électricité, plus 20%. Sur la hausse en fourniture de bois de la part de l'ONF, plus 50%. Sur l'accompagnement au quota carbone européen également. Monsieur Pigas, il a regardé à côté, il n'a pas voulu prendre cette réponse-là. Et à la fin, il s'étonne que son offre soit irrecevable.
Donc
et maintenant,
ça, c'est
on va regarder devant. On va regarder devant.
Il y a encore des emplois à sauver.
Il y a encore des emplois à sauver. Et je peux vous dire qu'on va se battre pour sauver ces emplois.
Merci. Merci d'être venu ce matin. Sébastien Martin,
merci.
Ministre de l'Industrie. Ce matin sur RMC. Il est 7h51 et dans un instant, c'est le portrait du jour avec Victor Pourchet.
Un commercial judoka parmi les héros qui ont stoppé un agresseur au couteau à Paris hier.
A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h53, vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. Le portrait du jour avec Victor Pourchet. On revient sur cette attaque au couteau hier dans le 17e arrondissement de Paris. L'assaillant a été arrêté en partie grâce à un certain Mohamed Ali.
Pas boxeur, mais sauveur. Mohamed Ali Bouadjar, c'est un jeune commercial de 26 ans. Hier matin, il va de boutique en boutique pour faire ses ventes. Mais quand il sort d'un supermarché près de la porte de Clichy, des cris, un mouvement de foule, ses yeux s'arrêtent sur un homme en jogging clair. Il a deux couteaux en main et attaque trois femmes, dont l'une est enceinte. À partir de ce moment-là, dit-il, dans ma tête, c'est devenu un ennemi. Alors, que fait-il? Eh bien, d'abord, c'est un jeune homme de son époque. Alors, il filme la scène avec son téléphone. Puis, sur ses vidéos, on l'entend crier, proposer aux autres autour de lui d'intervenir ensemble. Mohamed Ali, je vous l'ai dit, n'est pas boxeur, mais il est judoka depuis 15 ans. Ceinture noire, explique-t-il à nos confrères du Figaro. D'où le fait qu'en une balayette bien sentie, il met au sol le suspect.
Waouh. Et ça a aussi été un travail d'équipe. Hein.
Une improvisation collective, comme écrit le journal Le Parisien. Il y a cet homme de passage qui jette sa valise sur l'assaillant faisant tomber les couteaux. Il y a Issa Besseka, un serveur du coin, et sa collègue chez qui s'est réfugiée l'une des blessées. Keira, l'employée du resto d'à côté, qui raconte comment un autre serveur, celui de la brasserie qui fait l'angle, est venu avec une chaise pour bloquer l'homme au sol. Ou encore Jael Ahmed, l'ami de Mohamed Ali, notre commercial judoka. Et puis il y a tous ceux dont on ne connaît pas le nom mais qui ont agi et qui ont sûrement évité un drame encore plus important. Les trois femmes blessées sont désormais hors de danger.
Ouais, et donc, les héros du quotidien dans la rue, et notamment donc ce Mohamed Ali Bouadjar qu'on voulait saluer ce matin. Merci Victor. 7h55 et on part chez vous, dans vos villes.
RMC.
Dans vos villes.
On continue notre tour de France avec les reporters RMC partout sur le territoire. On continue d'aller à la rencontre des maires qui ont été élus ou réélus au mois de mars. Et aujourd'hui, on se transporte en 2030 pour les JO d'hiver que la France va accueillir dans les Alpes. Nous sommes dans la commune de Saint-Jean-de-Sixt en Haute-Savoie qui va être au cœur de l'organisation. Ce village de 1700 habitants va devenir le centre du monde sportif. Les biathlètes et skieurs de fond, ils seront logés dans un tout nouveau village olympique. Et c'est Romain Cluzel qui est allé à la rencontre du maire Yannick Defresne.
Au centre des attentions du maire de Saint-Jean-de-Sixt, un hameau en haut d'une petite route au milieu des montagnes. Là, on trouve une ancienne colonie de vacances désormais à l'abandon.
Dans ce site, c'est assez propice
à Cers, le village olympique.
Le maire de la commune, Yannick Desfraines, nous présente les lieux. En février 2030, près de 900 personnes vont s'installer ici. Des athlètes et leurs équipes venues du monde entier pour participer aux épreuves de ski de fond et de biathlon des Jeux Olympiques dans les stations voisines de la Clusaz et du Grand Bornand.
Ça va être quelque chose qui va être extraordinaire. C'est des sports qui résonnent, qui prennent aux tripes. C'est des sports qui sont pratiqués à l'école. On a des jeunes biathlètes aussi qui vivent à Saint-Jean, qui sont sur les clubs de la Clusaz ou de Grand Bornand. C'est évident que les JO sont un accélérateur et je mesure la chance, c'est d'avoir cet événement JO dans une mandature.
Un accélérateur parce que le maire, pour son premier mandat, ne veut pas passer à côté de l'opportunité pour sa commune de 1700 habitants. Les JO, cela signifie des investissements et des travaux qui auraient été inenvisageables en temps normal.
Là, on construit telle activité, on construit tel service. Voilà ce qui va nous rester. Un an après les JO, on ne veut pas se retrouver et dire « Bon, ok, la fête est passée et on fait quoi ?»
Alors Yannick Desfraines multiplie les échanges avec les organisateurs des JO pour que le village olympique soit ensuite utile aux habitants. Il plaide notamment pour installer un gymnase et une école. C'est l'une des demandes des habitants de Saint-Jean-de-Sixte, pour l'instant partagée à l'idée d'accueillir les Jeux. C'est le cas de Flore qui travaille dans le secteur du tourisme.
C'est une bonne nouvelle puisque du coup ça crée pas mal d'emplois. Ça va ramener quand même beaucoup de vacances. Ça va nous ouvrir sur le monde. Après, c'est vrai qu'on stresse aussi un peu en tant qu'habitant parce qu'on se dit comment on va faire pour circuler. Est-ce que ça va être bien préparé? Est-ce qu'au niveau des logements, on va en avoir assez? Ça reste quand même encore assez flou pour les JO.
Le maire Yannick Desfraines entend ces interrogations et lui-même a d'autres inquiétudes parce que le temps presse.
Il ne faut pas penser qu'il y ait des constructions avant le printemps prochain. Donc c'est vrai que ça va créer aussi un peu de stress parce que le calendrier va se réduire. La livraison des ouvrages olympiques, c'est septembre 2029. Ça laisse 2 ans. Voilà, on est une toute petite commune et de devoir accueillir, c'est une pression effectivement assez importante. Ça veut dire que le village va devoir se dimensionner.
Se dimensionner pour accueillir un événement mondial et profiter au mieux de ces 2 semaines de compétition. Maxime, le boulanger, s'y voit déjà.
Ça sera positif et on va faire des beaux JO ici dans une belle région. Allons-y et c'est parti pour 2030.
Un reportage signé Romain Cluzel en Haute-Savoie pour RMC. Allez, dans un instant, la météo, la chaleur revient et puis le journal de 8h, on va bien sûr retourner en Gironde où la nuit a été calme sur le front des incendies. Nouvelle encourageante ce matin. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.